Voici la prédication témoignage du docteur Rémi Toko de République démocratique du Congo, donnée à l'église évangélique de Merin, dimanche 9 novembre 2008. Rémi Toko est introduit par son compatriote et ami, le docteur Tony Ouketti, actuellement en poste à l'OMS à Genève et membre de l'église évangélique de Merin.
Bonjour encore ce matin. Je m'excuse un tout petit peu puisque je viens de rentrer hier du Soudan, donc je ma voix un peu rock. Heureusement qu'il y a le micro. En fait, le docteur Toko, je le connais depuis 1990, quand il est arrivé à Nyankoundé comme un jeune médecin venu de Kinshasa. Et à ce moment, il a été en fait introduit à Nyankoundé grâce au docteur Horton, qui était envoyé par le service missionnaire évangélique, qui aujourd'hui est une ONG de la FRAE. Et comme vous voyez donc, c'est le résultat de ce partenariat entre la FRAE et le centre médical évangélique qui a été fondé en 1965. Et puis en 1991, il y a eu un événement terrible au Congo, au point que tous les expatriés ont été évacués, y compris les missionnaires qui travaillaient ensemble avec nous à Nyankoundé. À l'occurrence, donc, le docteur Horton et sa femme et son épouse, ils ont été évacués prématurément, en fait. Et cela avait créé beaucoup de problèmes. Et les médecins, jeunes et anciens, ont pris des grandes responsabilités, entre autres le docteur Toko. Et dans le cadre de renforcement des capacités du personnel, le centre médical, ensemble avec le service missionnaire évangélique, a décidé d'envoyer le docteur Toko pour une spécialisation en Afrique du Sud. Et c'est en 1996 que le docteur Toko ira, grâce à l'appui de la DDC en Suisse, par le biais du service missionnaire évangélique, le docteur Toko est parti avec sa famille en Afrique du Sud pour la spécialisation en pédiatrie. Et à ce moment, il a bien terminé, il a passé des bons moments là, et il y a eu la situation au Congo entre-temps se gâter davantage, mais il avait toujours le cœur de revenir au Congo. Et en 2002, c'était en février, en janvier, le docteur Toko a pris vraiment le courage, la décision de regagner le Congo. J'étais parmi ceux qui voulaient lui dire, mais sois quand même prudent. Et je crois que je l'ai félicité, puisqu'il a pris la décision de revenir au Congo. Et ça, c'était en février 2002. Et comme vous le savez, vraiment la situation du pays s'est gâtée davantage. Et en septembre 2002, et exactement le 5, le pire est arrivé à Nyankoundé. Et Dr Toko, toute la famille, se trouvait à Nyankoundé. Et à ce moment, l'hôpital a été envahi par des groupes rebelles. On a tué des gens et on a saccagé. Et c'était la catastrophe. Et c'est à ce moment que Dieu a élevé Toko pour prendre la responsabilité de pouvoir vraiment être les leaders. Je me rappelle, j'étais à Bounia à ce moment. D'ailleurs, moi, j'étais même en mission ailleurs, perdu. Les gens ont appelé le docteur Toko Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage de négocier avec les rebelles pour évacuer quelques missionnaires qui étaient là, pour pouvoir prendre encore à charge environ 1000 personnes qui étaient restées à Nyankoundé, pour quitter, marcher à pied pendant environ 7 à 10 jours au-dessus de Nyankoundé à 200 km. Il est mieux placé pour vous expliquer ce qui s'est passé à partir du 5 jusqu'à, je crois, vers le 20, quand l'équipe a quitté Nyankoundé à pied. Donc voilà le docteur Toko qui est là. Je voulais juste donner une petite précision. Le docteur Toko, en fait, aujourd'hui, ne vient pas du Congo, puisqu'après ces événements, il est parti d'abord rejoindre sa famille qui était évacuée. Pendant ces moments catastrophiques, il est rentré à Nairobi et après, à Kinshasa, il est encore rentré en Afrique du Sud pour une autre sous-spécialité en néonatologie.
En soins intensifs
pédiatriques en Afrique du Sud. Et en 2005, il n'est plus rentré au Congo, mais aujourd'hui, depuis 2005, il travaille en Angleterre, en train de suivre un tout petit peu ce qui se passe au Congo. Comme vous le savez, ces jours-ci, le Congo est encore revenu. Pratiquement, c'est le point chaud encore une fois. C'est pour vous montrer combien ce pays est en train encore de souffrir. Il aura le temps de vous dire en plus dans le détail, mais il est arrivé ici, pourquoi ? Parce que cette semaine, il y a eu le vernissage de ces livres qui étaient écrits ici avec la collaboration de la FRAE, La parole aux pauvres. Et il y a un témoignage, tout un chapitre sur le témoignage du docteur Toko dans ce livre. Je crois que Serge Carrel est là, qui vous dira plus à la fin le détail sur ce livre. C'est donc dans ce cadre-là qu'il est arrivé pour le vernissage de ces livres. Et nous en avons profité pour qu'on y passe le message. Prions avant le message. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment nous réjouir ce matin de nous présenter devant toi pour t'écouter. Nous voulons recommander Toko entre tes mains. Utilise-le comme un instrument, Seigneur, afin de canaliser ton message pour nous encourager. Parle à travers lui et glorifie ton nom. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Ah, merci pour l'invitation. Merci à Tony pour l'introduction. Il a déjà dit ce que j'allais dire. C'est un grand privilège pour moi d'être ici parmi vous. Ce n'est pas la première fois. Il y a quoi, 9 ans, j'ai prié avec vous, là. Ouais. Et puis, il y a environ 15 mois, j'étais dans cette église ici. Donc, je reconnais quelques visages. Donc, je n'ai pas été complètement dépaysé. Merci pour l'invitation. Je vais en fait partager, vous donner un message de type serment, mais je vais partager avec vous l'expérience vécue et un peu en rapport avec la réponse que je tente de donner à ceux qui nous demandent, à ceux qui me demandent comment est-ce que tu as pu te relever faire face à ce qui s'est passé à Nyankunde et continuer la marche dans la foi chrétienne. C'est un peu dans ce sens-là. Et ma réponse, en résumé, si vous voulez, c'est que nous sommes dans une aventure de la foi. Et ma femme et moi-même, c'est ainsi que nous appelons notre marche avec le Seigneur. C'est une aventure de la foi. Et si vous regardez le mot aventure dans les dictionnaires, il est souvent associé au mot risque. Vous êtes d'accord avec moi? Dans une aventure, il y a le risque, ça peut bien aller, ça peut mal aller. Et pour beaucoup, notre aventure de la foi a très mal tourné. Pour certains, pas trop mal. Pour nous, très bien. Alors, avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé, je voudrais d'abord lire deux textes qui m'ont beaucoup aidé. Et le premier est dans le livre de Habacuc. Habacuc, chapitre 3 dans l'Ancien Testament, juste avant Sophonie. Chapitre 3, versets 16 à 19. L'Éternel est ma force. J'ai entendu cette nouvelle. J'en suis tout bouleversé, mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là tremblant. puisque je dois attendre tranquille, j'attendrai les jours de la détresse où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. Car le figuier ne bourgeonnera plus et il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Les fruits de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus le pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, le bœuf et les étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Le deuxième texte est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. C'est pourquoi, moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alors, notre aventure de la foi. Comme le docteur Tony Huckett l'a dit, en 1996, c'est là que je vais commencer avant de rentrer sur 2002, nous sommes allés en Afrique du Sud. Il y a eu ces projets-là de formation, mais au départ, nous n'avons pas su réunir tous les fonds possibles. Et ma femme et moi, ainsi que Tony et les autres, on a prié. Et la lettre d'inscription est arrivée. Une université en Afrique du Sud m'a accepté. Mais il n'y avait pas de fonds. On avait assez pour le vol, assez pour s'installer quelques mois, et puis c'est tout. Nous avons prié et nous sommes dit, ben, c'est une aventure de la foi, on la commence, on verra. Alors, je suis parti en Afrique du Sud, ma femme m'a rejoint un mois après avec nos deux enfants, et je commençais la formation. Et quelques mois plus tard, quand nous avons reçu le relevé de compte, nous sommes, oh là là, il nous reste qu'environ 2 mois pour les loyers, 1 mois et demi ou 2 mois pour avoir assez de nourriture pour nos deux enfants, et après c'est tout. Alors, au début il y avait une panique, par après nous avons prié, et nous sommes dit, ben, nous sommes venus en faisant confiance à Dieu. Seigneur, nous te faisons confiance, il nous reste 2 mois, ben, si tu veux que nous rentrons, ça va, si tu veux nous garder ici, c'est bien, mais nous te confions ce problème et nous l'oublions. Après la prière, nous avons continué notre vie comme si de rien n'était. Et vous savez, quand vous pouvez, la société en Afrique du Sud, c'est un peu comme la société occidentale, où il faut de l'argent. C'est pas comme au Congo, sans argent, vous pouvez faire votre petit champ et survivre, les coûts de la vie n'étaient pas élevés. Les soucis voulaient nous attaquer, mais nous prions, disons, nous avons déjà confié ce problème à Dieu. En 1997, je travaillais un matin dans une salle d'urgence dans l'hôpital général de Johannesburg, et en plein milieu de la journée, on me présente le téléphone, on dit, il y a un appel pour vous, docteur. Je prends l'appareil, c'est Armand Henniger qui m'appelle de la Suisse. Elle me dit, Rémi, ça va? Je lui dis, ben, ça va, c'est bien. La formation, ça continue bien. Et puis, il me dit, ben, on se réunit, il y a les Horton, il y a quelques-uns de tes amis en Suisse, et puis le SME dedans, et nous disons que probablement, tu dois avoir des problèmes financiers. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Et puis, elle me dit, ben, écoute, on a quelque chose, on va commencer à envoyer un peu d'argent pour vous soutenir pendant le reste de la formation. Ça, c'était la réponse à nos prières et ça a renforcé notre perception de notre aventure de la foi. Pendant ce temps, comme vous l'avez écouté, la guerre a éclaté au Congo et je continue ma formation. Vers la fin de ma formation, la question de rentrer au Congo commençait à se poser. Et là, j'ai aussi contacté le bureau du service missionnaire évangélique. Et nous sommes entendus que c'était important de faire un saut à Nyankunde, moi-même, voir sur terrain qu'est-ce qui se passait. Décembre 2000 à janvier 2001, j'étais à Nyankunde. Pendant que j'étais là, l'atmosphère n'était pas très très bonne. Il y avait une tension, on le sentait. Et deux jours après mon arrivée, un groupe, une milice tribale est descendue sur Nyankunde. Ils n'ont pas touché l'hôpital, il y a eu des tirs, mais ils ont tué les gens dans les environs, dont l'un de nos travailleurs, qu'on connaissait très bien. Et j'étais seul au guest house, les cuisiniers avaient fui. Et j'ai prié, dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis rentré en Afrique du Sud quelques jours plus tard, je dis à ma femme, voici ce qui m'est arrivé. Mais nous avons prié, et il y avait une conviction profonde que notre place à la fin de la formation, c'était Nyankunde. Nous étions basés en Afrique du Sud, on avait beaucoup d'amis. Les amis nous ont dit, mais écoutez, ne rentrez pas au Congo, puisque ce n'est pas très très stable. Vous avez des jeunes enfants, et ce n'est pas très stable, il ne faut pas rentrer. Quand ils nous disaient ça, c'était comme s'il y avait du feu dans nos cœurs. Nous prions, et quand nous rencontrons ces amis, nous leur disons, ben, nous on pense qu'on va aller au Congo. Quand nous répondions comme ça, il y avait une paix dans nos cœurs. Chaque fois que quelqu'un, que ce soit les amis congolais qu'on connaissait, des médecins, des collègues médecins, ils nous disaient, ben, il ne faut pas rentrer. Et nous disons, nous on a prié, on a la conviction que Dieu nous veut au Congo. Nous avions la paix. Et ça c'était un signe qui nous a dit que non, le Seigneur vraiment nous voulait au Congo, puisqu'il y avait cette paix-là et cette conviction. Donc nous sommes rentrés au Congo en janvier 2002 et en février j'ai commencé à travailler à l'hôpital. J'étais nommé médecin directeur de l'hôpital. Je m'occupais du service de pédiatrie et j'enseignais dans l'école d'infirmiers aussi. Et ma femme s'intéressait aux jeunes gens, surtout les jeunes filles. Ils partageaient l'évangile avec les jeunes filles. Et le travail marchait bien. Nous nous sommes dit, ben voilà, le Seigneur nous a ramenés, même s'il y avait une certaine tension tribale à Nyankunde, autour de Nyankunde et dans la région en général. Et nous nous disions, ben, le Seigneur nous a ramenés ici, nous allons servir pendant plusieurs années, des dizaines d'années, des années, et à la gloire du Seigneur. Et ça marchait assez bien. Et tout d'un coup, le 5 septembre 2002, tout s'est écroulé en un jour. Et je vais juste vous donner quelques extraits de ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Hein, puisqu'on n'aura pas si fort pour vous dire toute l'histoire, ça prendra une journée, deux jours, je ne sais pas. Le matin du 5 septembre, je faisais mon tour de salle à l'hôpital après la prière matinale. Et je suis rentré dans le service de soins intensifs. J'ai remarqué en sortant que l'atmosphère n'était pas le même qu'avant. Et je demandais à une dame qui passait qu'est-ce qui se passait. Et elle me dit, elle sourit, elle me dit rien. Et puis je me dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as des choses sur ta tête, des bagages. Sinon, la milice descend. Est-ce que tu les as vus? Elle sourit, elle part. Une deuxième dame, une minute après, même question, même réponse, même réaction. Alors je regarde ma maison, qui était en fait la maison de Tony avant nous, était juste en face de l'hôpital. Je me suis dit, ben, je vais avertir ma femme pour qu'elle garde les enfants à l'intérieur, jusqu'à ce que nous sachions qu'est-ce qui se passe. Et je fais quelques pas et j'ai entendu des tirs. Et ma femme qui voulait aller visiter une amie à côté a senti comme si quelqu'un lui disait « Mais rentre chez toi. » Elle est rentrée, parce que s'il n'était pas rentré, elle allait être bloquée là-bas. Et elle a commencé à fermer les portes, les fenêtres, elle m'a vu courir, je cours de toutes mes forces. Et puis je suis rentré à la maison et les tirs ont commencé. Et nous avons vu défiler des milliers de jeunes gens avec des flèches, des armes à feu et avec des feuilles sur leur tête et associés à des soldats rebelles. Donc il y avait une milice tribale et des soldats rebelles qui ont attaqué Nyankunde le 5 septembre 2002. Et là, nous nous sommes assis dans le couloir avec nos trois enfants. En ce moment-là, ils avaient 10 ans, 7 ans et 5 ans, un garçon et deux filles. Il y avait notre cuisinier qui était là et un travailleur de l'hôpital qui a fui aussi chez nous. Il passait devant chez nous, il est vite entré chez nous. Et nous prions. Nous avons prié, prié. Pendant ce temps, il y avait des tirs tout autour, la maison vibrait. Et ça nous faisait des gros soucis. Et moi, personnellement, pour mes enfants. Et puis, je n'avais pas terminé mon tour de salle à l'hôpital. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas moyen de redescendre à l'hôpital. Quelques temps après, nous avons vu que la milice qui était descendue vers le centre commercial, donc ils ont traversé l'hôpital, ils sont allés se battre avec un groupe, un autre groupe d'une autre tribu, vers le centre commercial. Ils sont remontés vers 1h dans l'après-midi à l'hôpital et ils ont commencé à piller. Nous avons vu qu'ils commençaient à casser les fenêtres et à piller. Quelques temps après, nous avons entendu des gens essayer de casser la porte de la cuisine et nous avons prié. Ils n'ont pas réussi à casser, ils sont partis. Et c'était un groupe de quelques éléments de la milice. Et là, le Seigneur a bloqué l'entrée pour ces gens-là, ces jeunes gens-là. Parce que s'ils étaient entrés, ils allaient probablement nous menacer et nous faire du mal. Quelques temps après, je vois environ 1 heure ou 2 heures après, le chef des soldats rebelles qui était associé aux milices s'est présenté. Nous l'avons vu à travers les rideaux. Il disait, il donnait des ordres à ses hommes. Vous rentrez dans cette maison, vous me prenez les clés de cette voiture. Il y avait une voiture 4x4, dont je n'avais pas les clés. Et vous me prenez tout ce qu'il y a comme matériel de communication, et tout de suite. Et ils ont tapé deux fois sur la porte de la cuisine, et la porte qui n'a pas pu céder aux jeunes gens de la milice a cédé tout d'un coup. Et ils sont entrés, le temps qu'on réfléchit, ils étaient dans notre salon. Et je suis sorti du couloir. Ma femme et les enfants m'ont suivi avec les deux jeunes gens qui étaient là. Elle les met en l'air, ils étaient armés jusqu'aux dents. Et puis le chef est entré après. C'est un groupe d'environ 4 ou 5. Ensuite, leur chef est entré après. Et il a demandé, est-ce que vous avez des armes dans cette maison? Je lui ai dit non, je suis médecin, j'ai ma famille. Et puis les deux travailleurs, il n'y a pas d'armes dans cette maison. Et là, il me dit, écoute, je veux te parler. Est-ce que tu peux me suivre dehors? Et pour ma femme, elle était sûre que le monsieur allait partir dehors avec moi et puis il allait me tuer dessus, puisque ça, c'est l'une des choses qu'il faisait. Alors ma femme a dit, je viens avec toi. Je lui ai dit, non, ça va, tu restes. Elle a dit, non, je viens avec toi. Alors nous sommes sortis derrière la porte de la cuisine et le monsieur m'a dit, écoute, je voudrais les clés de cette voiture. Et je lui ai dit que non, je n'en avais pas. Alors là, c'était le début d'une discussion houleuse avec ces chefs rebelles. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en ce moment-là, beaucoup d'éléments de la milice descendaient, remontaient. Quelques éléments rebelles descendaient, remontaient, pillaient, menaçaient les gens. Et ils me voyaient parler à leur chef. Et ils ont tous cru que j'étais ami au chef. Pendant que moi, je tremblais, je priais dedans, « Seigneur, protège-moi, protège ma famille. » Le Seigneur était en fait en train de préparer autre chose en utilisant ces moments-là. Et tout le monde qui était autour de ce chef rebelle a cru que vraiment, il me connaissait, puisqu'ils l'ont vu me parler sans me menacer. Et ça, c'était salutaire, puisque après, de nombreuses personnes, familles, femmes, enfants, hommes, se sont réfugiés chez moi ou chez nous et ils n'ont pas été touchés puisque les éléments de la milice, les rebelles, pensaient que cette maison-là, ils étaient connus de notre chef, alors il ne faut pas le toucher. Ils ont pillé toutes les maisons, ils n'ont pas touché à la maison. Et une semaine avant, on avait fait des achats, on a fait des stocks de nourriture, donc on avait assez pour nourrir les gens qui étaient venus avec nous, qui se réfugiaient chez nous. Alors, dans cette tragédie, quand je regarde en arrière, je vois la main de Dieu pendant que la tragédie prenait place, puisque en fait, il y a eu plus de 1000 morts, de gens innocents, des malades à l'hôpital, des femmes, des enfants, on a vu les corps des femmes avec bébés à main, que sans pitié, des personnes ont été égorgées ou tirées dessus. Alors, nous sommes restés à Nyankunde. Au départ, je croyais que ces gens-là allaient piller, voler, violer, partir, mais ils ne sont pas repartis. Un jour, deux jours, trois jours, ils étaient toujours là. En fait, le deuxième jour, il y a eu la négociation pour que les avions missionnaires viennent évacuer les missionnaires. Et là, j'ai reçu une note d'un ami, un missionnaire suisse, Gilles Bonvala, si vous le connaissez. Il m'a dit que je viens de entrer en contact avec notre pilote de la MAF, il veut venir, est-ce que tu peux obtenir une permission d'atterrissage? Je suis allé le voir, et puis on s'est dit, ben, on cherche une phonie, on communique, et puis après je vais aller demander la permission. Et pendant que lui cherchait la phonie, puisque chez lui, après avoir communiqué, la phonie était cassée, il a perdu l'antenne, je suis descendu parler au chef des rebelles pour lui demander la permission. Il me l'a donné. Je suis allé voir le chef de la milice pour lui dire la même chose. Il m'a dit, oui, l'avion peut venir, mais à condition que je sois averti 10 minutes avant que je sois là pour que je vérifie, puis je vérifie qu'il n'y ait pas d'armes dans l'avion. J'ai dit, mais c'est un avion missionnaire, il n'y aura pas d'armes. Non, je dois être là. Alors, je suis rentré voir Gilles Bonvala et nous avons cherché comment rentrer en contact avec les pilotes pour l'informer que oui, c'était bon, il pouvait venir. Et là, on ne trouvait pas de phonie. Nous sommes descendus dans notre bureau de communication, tout a été pillé, cassé. Alors je me suis dit, il y a une phonie qui reste à l'hôpital et je vais tenter d'y aller. Mais devant l'hôpital, c'était plein de rebelles. Alors, et puis tout le monde avait fui la partie administrative de l'hôpital pour se réfugier aux soins intensifs plus en haut. Donc c'était abandonné avec des rebelles devant. Alors je dis, ben, nous prions, vous restez, je vais seul. Et je suis allé, j'ai fait semblant d'entrer dans certains bureaux et puis je me suis glissé dans la salle de la phonie. J'ai ouvert, c'était la phonie de Médère, la fréquence de Médère. Et ils m'ont répondu tout de suite. J'ai dit, venez, c'est bon. Et là, je suis rentré informer le chef des rebelles et le chef de la milice. Alors, en ce moment-là, pour moi, c'était normal. Mais en fait, Dieu m'avait aveuglé moi et avait aveuglé ces gens à qui je parlais. Puisque quand il y a la guerre, quand ils occupent un territoire, si vous communiquez derrière leur dos, c'est un crime de guerre. Il suffisait d'une simple question. Docteur, comment vous avez su que l'avion peut venir? La réponse était claire que je venais de communiquer. Et ça, c'était un crime qui méritait la mort. Alors, Dieu m'a aveuglé, moi, pour que je ne réfléchisse pas avec la sagesse humaine, comme on l'a lit dans 1 Corinthiens. Donc, je n'ai pas réfléchi que si je leur donnais cette information, comment est-ce qu'ils avaient réagi? Et Dieu a, au même moment, aveuglé ces gens pour qu'ils ne puissent pas me poser la question. Et à deux reprises, j'ai parlé à ces deux personnes, ils ne m'ont pas posé la question. Ce n'est que plusieurs semaines après que je me suis rendu compte, mais Rémi, tu étais fou. Comment est-ce que tu pouvais aller parler à ces gens, leur dire que tu venais en fait de communiquer? Alors là, je dis, oh là là, je marchais côte à côte avec la mort, mais Dieu a été là et il a protégé. Une semaine après, on ne pouvait plus tenir, on n'avait plus de nourriture, les marchés étaient pillés. Les maisons étaient pillées, les gens avaient quitté leurs maisons. Ils étaient à l'hôpital, chez moi, et dans la salle de l'école en face. Et on s'était dit qu'il fallait quitter Nyankunde. Et chaque jour, je commençais à aller voir le chef des rebelles pour lui demander la permission. Il me répondait toujours, docteur, vous restez, ça va se calmer, vous allez continuer à travailler. En fait, il y a eu des jours où j'ai tenté d'aller à l'hôpital pour soigner les malades et je suis ressorti puisqu'il y avait tellement de tragédies que je ne pouvais pas. J'ai envoyé un autre collègue pour aller travailler. Il a été menacé par des soldats rebelles. Il a quitté l'hôpital aussi. Ce n'était pas possible de travailler. Alors, on s'est décidé qu'il fallait quitter. Nous avons prié finalement. Nous avons obtenu la permission le 11 septembre. Mais nous avons dû quitter le 12 septembre 2002. Mais ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour nous, c'était que le 10 septembre, dans la nuit, le chef, le responsable de milice, de la milice tribale, est arrivé. Il a perquisitionné l'hôpital. Il y avait des gens qui s'étaient réfugiés, cachés dans la salle d'opération. Il les a fait prisonniers. Il les passait partout. Il a fait des prisonniers. Et j'étais là. Il a menacé de m'arrêter aussi. Et je suis rentré chez moi. J'ai prié. J'ai fait une nuit blanche. Je disais, mais Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es souverain. Je sais que tu es capable d'arrêter tout ce qui se passe. Fais quelque chose. Et il y avait un silence. Et je pense qu'il n'y a rien de très grave, de très décourageant, qui peut vous secouer, que de savoir qu'il est là, il est capable, mais il reste silencieux. Il est resté silencieux. Je vais y revenir tout de suite. Nous avons quitté Nyankunde, juste une dernière partie de l'histoire. Nous sommes arrivés dans un petit coin appelé Komanda et notre responsable de communication me dit que, docteur, j'ai la valise satellitaire, notre téléphone. Et là, c'était déjà une dizaine de jours, nous étions complètement coupés du monde extérieur, les gens priaient pour nous, mais ils ne savaient pas si nous étions vivants, morts, à Nyankunde, hors de Nyankunde. Ma femme et les enfants étaient évacués sur Nairobi. Elle était en pleurs chaque jour. Notre aînée qui avait 10 ans posait la question chaque jour. Maman, quand est-ce que papa vient? Elle ne savait pas si j'étais vivant pour commencer. Elle devait répondre. Donc elle était en pleurs chaque jour. La famille, les amis, les partenaires, personne ne savait où nous étions et si nous étions vivants. Alors, avec la nouvelle du téléphone, j'ai dit, mais écoute, ça c'est une très bonne nouvelle. Nous devons utiliser ce téléphone. Nous nous sommes organisés, ça devait se faire dans le plus grand secret possible, puisque dans ce petit coin de Komanda, il y avait un autre groupe de rebelles qui contrôlait la région. Alors la nuit, l'ami qui avait le téléphone, lui, il était dehors avec l'antenne pour chercher où était le satellite, et moi, j'étais dans une chambrette pour téléphoner. Bon, je regardais mon agenda électronique, il ne marchait plus. Parce que j'avais l'agenda électronique dans ma poche, passeport dans l'autre poche, un peu d'argent sur moi, à tout moment prêt à courir s'il fallait courir. Et lui, il avait son carnet, il a feuilleté, on a cherché pendant longtemps. Finalement, nous avons trouvé un numéro qui commençait par 041. Ça vous dit quelque chose? Quand j'ai vu ce numéro, j'ai dit, voilà, c'est ça. Et c'était le numéro de Horton. Alors, j'ai composé les numéros, ça a sonné et c'est parti sur le répondeur. J'ai failli m'écrouler. D'abord, physiquement, il n'y avait pas beaucoup de force. On ne mangeait pas suffisamment. Alors, j'ai laissé ce même petit message. Anne-Christine, Jeff, c'est Rémi, nous sommes à Komanda. Nous allons assez bien. Ils n'étaient pas à la maison de Horton et leur ordinateur avait un problème. Mais il fallait, c'était une nouvelle extraordinaire puisque les gens priaient. Il fallait à tout partager cette nouvelle-là à l'instant même. Alors, comment le faire? Bien sûr, ils ont téléphoné à ma femme, à ma famille à Kinshasa pour leur donner la nouvelle. Mais les gens qui priaient dans le monde entier devaient savoir ce qui s'est passé. Ils ont dû téléphoner Dr Tony Oketi, qui était au Congo, au nord-est du Congo. Alors, lui, il avait son téléphone, une valise satellitaire aussi. Normalement, vous connectez à l'ordinateur, vous cliquez pour envoyer les emails, ça envoie les emails, ça reçoit et vous fermez. Vous n'appelez pas, sauf urgence extrême, puisque ça coûtait extrêmement cher. Alors là, son téléphone sonne. Le téléphone qui n'était pas censé sonner, sonne. Au lieu de prendre, il recule. Mais Il s'étonne, mais ce téléphone n'est pas censé sonner. Et là, je vois la main de Dieu qui a fait qu'il laisse le téléphone ouvert à ce moment-là. Et ça sonnait. Et c'était Anne-Christ Norton qui lui dit, écoute, je viens de recevoir un message de Rémi. Ils vont bien, ils ont sorti de Nyankunda, ils sont en commandant. C'est ainsi qu'un email a été envoyé et tout le monde a pu savoir que nous étions hors de Nyankunda. Et je me suis dit, à ce moment-là, avec plus de 750 personnes, dont les trois quarts étaient des femmes et des enfants, je parlais à mes collègues médecins, les infirmiers qui étaient, je me suis dit, nous avons maintenant environ une centaine de kilomètres dans la forêt où il n'y avait pas de route, c'était des pistes. Et avec autant d'enfants, nous devons nous préparer au pire. Il y aura quelques enfants ou quelques femmes, en tout cas, qui vont mourir, puisque ce n'est pas possible de marcher sans eau potable, sans nourriture, et arriver à destination à une centaine de kilomètres avec tout le monde. Donc nous sommes préparés à ce qu'il y ait des morts. Mais Dieu a été grand. Non seulement nous sommes tous arrivés, et même des bébés nés dans la forêt. Ça, c'est comment Dieu nous a confondus. Alors, pour terminer, quelques réflexions. Bien que je puisse souligner la main de Dieu dans la tragédie. Alors, mais comment est-ce qu'on peut se remettre d'une telle tragédie? Quand le rêve s'écroule, parce que je t'ai formé, je suis rentré avec enthousiasme, le travail avait commencé, et en un jour, après sept mois et demi, tout s'est écroulé en un jour. Au lieu d'une dizaine, vingtaine d'années de service dans ce grand hôpital chrétien de référence, en un jour, tout s'est écroulé. Et bien sûr, je me suis posé des questions. Et il y a eu des hauts et des bas. Et il y a eu des moments où je me dis, Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as permis que ça nous arrive comme ça? Et je n'ai commencé à avoir des réponses qu'une fois à Nairobi, puisque j'ai rejoint ma famille trois semaines après. Et après avoir écouté une prédication à Nairobi, j'ai commencé à rechercher un peu plus en profondeur pour trouver une explication. Comment est-ce que je peux... Cette aventure de la foi qui a, humainement parlant, mal tourné, est-ce que pour Dieu, c'était aussi mal tourné? Est-ce qu'il était au contrôle de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il l'a permis? Pourquoi? Et quelle était ma place? Qu'est-ce que cette aventure de la foi devait devenir? Bien que pour vous, vous n'avez pas vécu la tragédie que moi j'ai vécue, mais chacun dans sa vie a des petites tragédies par ici, par là. Les relations qui se cassent, l'emploi qu'on perd, et les problèmes qui arrivent. Donc chacun a ses tragédies. Alors, je commençais à regarder la Bible après avoir écouté la prédication à Nairobi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la Bible est pleine d'histoires de tragédies. Et ça m'a surpris, parce que je n'avais jamais regardé ces histoires du point de vue de quelqu'un qui avait quelque chose de très grave. Je suis rentré dans le livre d'Exode, où les enfants d'Israël, dans Exode 1, 7 à 10, Joseph est mort, sa génération est passée, un nouveau pharaon vient, il ne tient pas compte de l'apport de pharaon en Égypte et commence à maltraiter ces gens-là, les enfants d'Israël. Au moins, tout allait bien, ils étaient forts, nombreux, mais la tragédie a frappé. Je vois que Dieu a utilisé ça pour enfin les délivrer avec Moïse plus tard, avec ses deux fils, en cherchant une vie meilleure. Et là, son mari meurt, ses fils meurent. Elle rentre toute seule avec Ruth, bien sûr. Elle dit, ne m'appelez plus Noémie, la bénie, mais appelez-moi Mara, l'affligée. Mais Dieu l'a utilisé plus tard pour l'incorporer même dans la généalogie de Jésus. Je dis, mais ça c'est intéressant. Et j'ai regardé dans le livre de 1 Corinthiens où on parle de la folie de Dieu qui est mieux que la sagesse des hommes. Je dis, mais Dieu fait des choses folles, il permet des choses bizarres, des tragédies. Mais je crois qu'il a plus de sagesse que notre sagesse. Et notre foi ne doit pas se baser sur la sagesse des hommes, comme le dit dans 1 Corinthiens 2, 5, quelques versets qu'on a lus au départ, mais plutôt sur la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu a fait des choses positives dans toute cette tragédie? Est-ce que j'ai vu sa main là-bas? Et la réponse était oui, il y avait sa main là-dedans. Et je regardais aussi la tragédie par excellence, comme je l'appelle, la mort de Jésus sur la croix. Et là, j'ai compris Pierre, l'apôtre Pierre. Je suis parmi probablement les personnes qui comprennent l'apôtre Pierre mieux. Puisqu'il était, je peux m'identifier à ce qu'il a vécu. Il est avec ce Jésus, ce fils de Dieu, qui a multiplié le pain et les poissons pour nourrir des milliers, qui a marché sur les eaux, et lui, Pierre, a marché aussi sur les eaux, en fait, un tout petit peu, n'est-ce pas? Alors, c'est ça le Jésus qu'il connaissait. Le Jésus qu'il connaissait, lui, c'est ce Jésus qui voit un malade et le guérit, qui a redonné la vue aux aveugles, les fils de Dieu. Et ils ont chanté quelques jours plus tard, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Il est entré triomphalement à Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, « Pierre, monsieur, vous avez été avec lui. » Pierre dit, « Non, je ne le connais pas. » Et nous disons que Pierre a nié Jésus. En fait, Pierre, à mon avis, a dit que le Jésus que je connais, celui que j'ai dit, « Tu es le Fils de Dieu » quand il m'a demandé, « Qui vous dites que je suis ?» C'est Jésus-là qui a fait des miracles. Je ne le retrouve pas en ce monsieur qui se fait battre, qui se fait jeter la salive sur la tête sans réagir. Je ne le retrouve pas. Je ne retrouve pas en ce monsieur celui qui a marché sur les eaux. Est-ce que vous me comprenez? Quand nos attendements de Dieu, de Jésus, ne se marient plus à la réalité que nous vivons, quel type d'émotion ça produit à nous? Nous savons qu'il est puissant. Il est capable, mais nous sommes devant une situation où il reste calme, silencieux. Et c'est facile pour nous aussi de dire, non, nous ne reconnaissons pas en ce Dieu, le Dieu en qui nous avons cru. C'est facile. Et pour Pierre, le pire est arrivé, puisqu'en fait, après avoir nié qu'il connaissait Jésus, Jésus a été crucifié. Il est sur la croix et puis il est enterré même. Ce n'est pas le Jésus, c'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Du point de vue humain, dans la sagesse humaine, c'était une tragédie. Mais il est ressuscité. Et Dieu, dans cette tragédie, avait un plan du salut pour le monde. Et ce salut qui nous est donné aujourd'hui gratuitement, c'est passé par une tragédie. Pour ceux qui étaient associés à Jésus, pour les disciples, c'était une tragédie incroyable. Et c'est ainsi que Pierre, même après avoir vu Jésus ressuscité, il est allé à la tombe, c'était vide. Quelques jours plus tard, il a dit à ses amis, « Mes chers amis, je vais à la pêche. » Ça, c'était après la résurrection. Il ne comprenait toujours pas, il a fallu l'intervention du Saint-Esprit. Et j'ai découvert aussi un autre secret. Je vais bientôt terminer. Quand nous rentrons dans Luc 22, 23 à 25, dans le verset 32, 31 à 34, Luc 22, Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé, Satan veut te secouer, mais moi, je priais pour toi, quand tu seras fort dans la foi, fortifie tes frères. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait. Pierre est passé par les hauts et les bas. Il n'a pas reconnu en Jésus qui mourait le Seigneur en qui il croyait, puisque c'était différent. La réalité qu'il vivait ne correspondait pas à ses attentes. Mais Jésus avait prié pour lui. Alors, pour nous les chrétiens, comme aujourd'hui, le Congo, par exemple, étant, encore une fois, dans la guerre, beaucoup de déplacés, beaucoup de souffrances. C'est très facile de nous plaindre, mais prions. Nous ne savons pas où est la main de Dieu, comment Dieu utilise une tragédie. Prions. Et ça aussi, c'est pour nos amis, nos frères, nos familles, l'Église. quand la réalité que nous vivons ne correspond pas à nos attentes, prions. Si je suis aujourd'hui debout, si je peux sourire, non seulement avec mes lèvres, mais avec mon cœur, c'est parce que les gens ont prié. Et ça, je n'ai pas de doute. Puisque je suis allé, par exemple, en 2003, on m'a invité dans une conférence en Angleterre, quand j'étais en Afrique du Sud. Et là, tout au nord, je parle à un petit groupe d'études bibliques, et les gens me disent qu'on avait beaucoup prié pour vous. Je sursautais. Le jeudi, ici en Suisse, 2008, jeudi 6 novembre 2008, quelqu'un me dit, on avait prié pour vous. Je dis, ah oui, c'est ça ce qui a fait que ma foi ne puisse pas succomber, puisqu'il y avait suffisamment de tragédies, la mort des gens, ils n'ont ça. Voilà. On peut même pas parler de choses matérielles qu'on a perdues, puisque quand on voit déjà la mort des gens, c'est trop. Mais les gens ont prié. Dieu permet des tragédies. Dieu permet des choses que nous ne comprenons pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne comprends pas. Par exemple, pourquoi il a permis à ce que les gens meurent, des innocents, des malades à l'hôpital, dans mon hôpital. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais j'ai appris qu'il permet des situations. Il voit plus loin, même 10, 15, 100 ans plus tard, avec les enfants, disait centaines d'années, il a un plan. Notre vision limitée, le champ de vue limité, on ne le voit, on ne peut pas percevoir ce que Dieu perçoit. Alors pour moi et ma femme, nous sommes décidés de continuer à lui faire confiance et de continuer notre aventure de la foi. Et les gens me posent la question, est-ce que tu regrettes être rentré au Congo? J'ai souri et j'ai dit non. Parce que quand je vois ce que Dieu a fait au travers de moi dans cette tragédie, c'était important qu'il rentre, que je rentre. C'est pourquoi il avait donné la conviction de rentrer. Et il y a eu des moments où je demandais à Dieu, mais Dieu, ça va, j'ai vu ce que tu as fait. Mais pourquoi tu ne m'as pas fait rentrer seul, épargner ma femme et les enfants? Je ne suis pas d'accord qu'ils aient aussi vécu ce que moi j'ai vécu. Il fallait les épargner. Et il faut dire qu'il y avait des moments où j'étais un peu fâché avec Dieu. Pourquoi tu as permis que ma femme et les enfants vivent ça aussi? Et un jour, il s'est décidé de me parler. Les rares fois où j'ai écouté Dieu très clairement, c'est comme si quelqu'un me parlait, dit Rémi, si je t'avais demandé de rentrer seul, est-ce que tu aurais dû accepter de rentrer? Je dis non, je n'allais pas laisser ma femme. Il a dit, tu es d'accord, c'est clos? Je dis oui. On clôt la discussion, c'est fini. Et là, c'était très clair. Faisons confiance à Dieu dans nos tragédies, grandes, petites, et dans nos peines, dans nos troubles, dans les moments où nous avons de l'angoisse, nous nous posons des questions. Où est Dieu? Quelquefois, il reste silencieux, nous ne le voyons pas, mais il est quelque part. Il a un plan que la sagesse humaine ne peut pas percevoir. Faisons confiance à la puissance de Dieu. Il est là, il nous aime, et ça, c'est vrai. Je vous remercie. Thank you.